France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Anne Frank et son célèbre journal. Probablement l'avez-vous lu à l'école, comme des générations d'adolescents avant et après vous, comme une sorte de rite de passage. Peut-être gardez-vous en mémoire quelques scènes. Le premier baiser entre Anne et Peter, les disputes avec sa mère, la description de son corps adolescent. Et combien d'entre vous, petites filles, ont commencé à écrire leur journal pour faire comme elle ? Publié en 1947, le journal d'Anne Frank s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Il a été adapté en film, en pièces de théâtre, en BD et même en manga. Il est devenu un symbole, celui du martyr juif, de la barbarie nazie, de l'enfance brisée. Rédigé entre 1942 et 1944, le journal d'Anne Frank raconte le quotidien d'une jeune fille juive allemande exilée aux Pays-Bas, cachée avec sa famille et quatre autres personnes dans une annexe secrète. Quelques mètres carrés, privée de la lumière du jour, avec la peur constante d'être découverte. Et elle le fut. Anne Frank meurt au camp de Bergen-Belsen en 1945. Et c'est bien ce qui rend la lecture de son journal si déchirante, car c'est un décompte dont nous connaissons la fin. Ce que nous connaissons moins, en revanche, c'est l'histoire de la publication du journal, de ses différentes versions et de ses différentes éditions qui, selon les époques, ont voulu expurger le texte de tout ce qui pourrait fâcher, de son irrévérence à sa religion, notamment. Notre invitée aujourd'hui, Christine Laureau, correspondante en France de la Maison Anne Frank à Amsterdam. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récits documentaires, Margot Pinel, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Vendredi 4 août 1944, 10h30. Une voiture de l'armée allemande s'arrête devant l'usine Opecta au 263 Prisenhart, en plein centre d'Amsterdam. À l'intérieur, le sous-officier SS Karl Sieberbauer et trois policiers néerlandais. Sûrs d'eux-mêmes et de leur uniforme, ils entrent sans frapper dans l'entrepôt, montent au premier étage et s'enferment dans le bureau du directeur général de l'usine, Victor Kugler. De l'autre côté de la porte, la secrétaire Mip Gies entend vociférer en allemand « Où sont les Juifs ?» Son sang se fige. Quelques minutes plus tard, Victor Kugler sort de son bureau, un pistolet pointé dans le dos. Le SS Sieberbauer l'entraîne avec lui fouiller pour le bâtiment. Et il répète « Wo sind die Juden ? Où sont les Juifs ?» Terrifié, Kluger le mène au palier du deuxième étage où se trouve une bibliothèque. Le sous-officier et ses sbires déplacent le meuble qui pivote. Et derrière, il découvre une porte secrète, l'entrée d'une petite annexe où se cachent 8 clandestins juifs. 26 ans plus tard, en 1970, sur Radio-Canada, l'un d'eux, Otto Frank, le père d'Anne Frank, se souvient de ce moment où tout s'est arrêté brusquement.
J'étais au grenier avec Peter et nous avons travaillé, c'était anglais ou français, je ne me rappelle plus. Et subitement, on écoutait un puits et un homme arrivait au grenier avec un revolver et nous a arrêtés et c'était la fin. Alors, les autres étaient arrêtés, il était là avec les mains, les bras en haut. Parce qu'on croyait qu'on avait des armes. Mais aussitôt qu'on savait qu'il n'y avait pas des armes du tout, on a laissé les gens et on a dit « Préparez vos bagages, il faut partir. » Tout le monde était calme, personne ne parlait vraiment.
Et Anne ?
Ne parlait pas non plus.
Au rez-de-chaussée de l'annexe, Otto Frank retrouve sa femme Edith, ses deux filles, Margot et Anne, son collègue et ami Hermann Van Pels, sa femme Auguste et leur fils, Peter, et enfin le dentiste Fritz Pfeffer. « Où est l'argent ? » tempête le SS Sieberbauer. Otto lui indique l'armoire où se trouvent quelques bijoux et les dernières pièces qui leur restent. Et l'interrogatoire reprend. Depuis combien de temps vivent-ils ici ? 2 ans. 2 ans et 30 jours, exactement. Le SS peine à y croire. Alors Otto Frank lui montre sur le mur, à côté de lui, les petits traits inscrits à l'encre violette. Il commence en juillet 1942 et indique la taille de Margot et Anne à leur arrivée dans l'annexe. Elles avaient alors 16 et 13 ans. Depuis, les filles ont grandi, les petits traits avec. À côté de ces mesures, il y a aussi une carte de l'Europe sur laquelle les clandestins suivent l'avancée des troupes alliées. Chaque soir, ils se retrouvent autour de la radio, écoutent la BBC ou Radio Orange, l'émission du gouvernement des Irlandais en exil. Car depuis 2 mois, un vent d'espoir souffle dans l'annexe. Le 4 juin 1944, les Alliés ont pris Rome. 2 jours plus tard, c'est le débarquement en Normandie. Sur le front Est, les Russes sont en Pologne. Dans quelques semaines, quelques mois peut-être, la guerre sera finie et on rêve déjà de la vie d'après. On rêve, au moment même où la Gestapo envahit l'annexe et met tout à sac. À l'étage du dessous, la secrétaire Mip Gis, enfermée à clé dans son bureau, n'a rien vu, mais elle a tout entendu, ou presque. Et elle témoigne en 1959 dans l'émission 5 colonnes à la une.
Je la sais entendu partir. D'abord, ils sont pris le couloir. Puis, ils sont descendus l'escalier. Ils s'étaient habitués à marcher tout doucement pendant ces 2 ans. On ne l'entendait que lorsque l'on savait que c'était tel.
Mip Gis est l'une de ceux et de celles qui ont aidé la famille Frank et leurs amis à se cacher, au péril de leur vie. En tout, ils sont 6. Mip Gis donc, son mari Jan, le directeur de PEPTA, Victor Kugler, le comptable Johannes Kleiman, la dactylo Bep Voskigil et son père, John. Des amis, des justes, des résistants. Otto Frank les appellera plus tard des bienfaiteurs. Pendant 2 ans, ils sont pour les occupants de l'annexe, les occupants cachés, leur seul lien avec le monde extérieur. Ils veillent à leur sécurité, à leur survie matérielle, mais aussi à leur morale. Ils leur apportent des magazines, des livres, des leçons. Bep, par exemple, s'inscrit à un cours de latin, suivi en réalité par Margot Frank. Mip, elle, monte chaque matin à l'annexe, prend des nouvelles, la liste des courses à faire, et revient pour le déjeuner. « On dirait que nous ne sommes jamais loin des pensées de Mip », écrira Anne Frank dans son journal. Un journal dont elle fut, à un temps, la gardienne involontaire. Ce 4 août 1944, Mip Gis échappe miraculeusement à la rafle, tout comme Bep. Victor Kugler et Johannes Kleiman, eux, sont arrêtés et conduits avec les 8 clandestins au quartier général de la Gestapo d'Amsterdam. Le soir même, Mip et Bep remontent une dernière fois l'escalier qui mène au 2e étage, pivotent la bibliothèque et découvrent l'annexe saccagée. Comme le raconte Mip elle-même dans son autobiographie intitulée « Elle s'appelait Anne Frank » et publiée en 1987 chez Calman Levy.
Du seuil, je vis immédiatement que l'endroit avait été fouillé de fond en comble. Sur le plancher, mon œil fut attiré par le petit cahier à couverture de tissu orange à carreaux que M. Frank avait offert à Anne pour ses 13 ans. Je savais combien il lui avait été précieux. Mes yeux parcoururent les amas d'effets éparpillés dans la pièce, à la recherche d'autres pages écrites par Anne. J'aperçus 2 vieux livres de contes, des feuilles volantes que Bep et moi lui avions données lorsqu'elle n'avait plus suffisamment de pages dans son cahier. Encore très bouleversée, Bep attendait de moi que je lui dise quoi faire. « Aide-moi à rassembler tous les papiers d'Anne, » lui ordonnai-je.
De retour dans son bureau, Mip cache les journaux d'Anne Frank au fond d'un tiroir sans jamais les lire. Non, elle les lui rendra à son retour. Dans son autobiographie, toujours, Mip avoue que si elle avait ouvert un seul de ses cahiers, elle aurait tout brûlé, car son nom et ceux des autres bienfaiteurs y sont inscrits, noir sur blanc. Dans les locaux de la Gestapo, les interrogatoires se poursuivent toute la nuit. Le lendemain matin, les 8 occupants de l'annexe sont envoyés en prison, puis transféré 4 jours plus tard au camp de transit de Westerbork, au nord-est des Pays-Bas. Toute la journée, Anne Frank et sa sœur, Margot, doivent désassembler de vieilles piles, une tâche particulièrement pénible. Mais après 2 ans de réclusion forcée, Westerbork leur offre, paradoxalement, une parenthèse de liberté, comme le raconte leur père en 1970.
Dans ce camp-là, ce n'était pas trop mauvais, parce que le soir, on était ensemble. Et alors, on était très heureux là, parce qu'elle pouvait se promener, elle retrouvait des jeunes gens, elle pouvait parler de tout le monde, avec tout le monde. Il y avait même une soirée où une jeune Israélien a chanté des chansons yiddish. Là, ce n'était pas comme dans un camp en Pologne, c'était un camp hollandais tout de même. Mais on ne savait pas ce que va se passer, on croyait. Peut-être nous resterons là.
Les Francs resteront au camp de Westerbork un peu moins d'un mois. Entre-temps, le 25 août 1944, Paris est libéré. Puis Bruxelles, le 3 septembre. Et cette fois, c'est sûr, la guerre est bientôt terminée. Les Allemands perdent sur tous les fronts. Et pourtant, ils continuent de déporter les Juifs. Ce même 3 septembre 1944, en effet, à l'aube, un train quitte Westerbork en direction de la Pologne. C'est le dernier convoi pour Auschwitz. À l'intérieur, entassés dans des wagons à bestiaux, 1019 personnes, hommes, femmes et enfants, dont les 8 occupants de l'annexe étouffent. Le 5 septembre, après 3 jours et 2 nuits sans boire ni manger, le train s'immobilise. Otto Frank, toujours, témoigne.
On n'a pas parlé beaucoup, même je n'ai même pas parlé beaucoup à ma femme. J'ai seulement dit à mes enfants, si on survit et si je ne survis pas, vous connaissez l'adresse de ma mère, vous connaissez l'adresse de vos oncles, toujours il y a quelqu'un, vous pouvez aller, on parlait de ça, oui, mais on ne parlait pas beaucoup.
Ce seront les dernières paroles qu'Otto échangera avec sa femme et ses 2 filles, la dernière fois qu'il les verra. À leur arrivée au camp d'Auschwitz, ils sont séparés, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, puis ils sont tondus, tatoués, envoyés aux travaux forcés. 2 mois plus tard, le 1er novembre 1944, Margot et Anne Frank sont séparés de leur mère, Edith, qui meurt quelques mois plus tard à l'infirmerie, entre guillemets, du camp d'Auschwitz. Les sœurs, elles, sont transférées au camp allemand de Bergen-Belsen. Un camp surpeuplé, un charnier à ciel ouvert. Partout, des cadavres empilés et des vivants qui semblent déjà morts. Les derniers jours d'Anne Frank ont été racontés par 2 survivantes qui la connaissent. Un récit morcelé, bouleversant. Il y a celui d'Annette Blitz, une amie d'enfance, retrouvée par hasard dans cet enfer. Un jour, en effet, à travers les barbelés, elle reconnaît le visage d'Anne. Mais rien d'autre. Ses cheveux sont rasés, son corps est si frêle, infesté par la gale et le typhus. Et puis, il y a celui d'Anna Koslar, la meilleure amie d'Anne lorsqu'elles étaient à l'école à Amsterdam. Elle aussi a été déportée à Bergen-Belsen, mais dans une autre partie du camp. Et un mur de paille les sépare. Elles se parlent pour la dernière fois en février 1945... 14 ans plus tard, Anna raconte au journaliste de Saint-Colonne de la Une.
Un soir, une nuit, en vous cachant, vous êtes allé tout près de ce mur de paille et vous avez appelé Anne.
Oui.
Et Anne est venue.
Moi, je l'ai demandé si elle sait que ma maman, elle est morte. Et elle m'a répondu qu'elle n'a plus les parents.
Elle croyait que son père était mort aussi.
Aussi, oui.
Elle vous a parlé de sa sœur.
Oui, qu'elle est très malade.
Elle vous a demandé quelque chose. Elle vous a demandé quelque chose pour elle et pour sa sœur.
Oui, nous avions les petits paquets, les croix rouges, et je l'ai promis
de lui envoyer
un autre jour,
oui,
quelque chose.
Et quelques jours après, vous êtes venu avec un paquet, avec un peu de vivres et un peu de vêtements, et
oui,
vous l'avez jeté par-dessus le mur de paille.
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est
Mais
passé?
Mais à côté, Anne était une autre femme.
Oui.
Moi, je ne pouvais pas voir. Et elle a pris ce paquet. Et moi, j'ai seulement entendu le pleur de Anne.
Margot Franck, 19 ans, succombe la première. Anne meurt quelques jours plus tard, probablement au début du mois de mars 1945. Elle avait 15 ans. Son corps, comme celui des 50 000 morts de Bergen-Belsen, repose probablement dans une fosse commune. Un mois et demi plus tard, le 15 avril, les troupes britanniques libèrent le camp. Sur les 8 personnes cachées dans l'annexe, Otto Frank est le seul survivant. Après la libération d'Auschwitz par les Russes, le 27 janvier 1945, il lui faudra plus de 5 mois pour regagner les Pays-Bas. 5 mois d'attente et d'errance, de la Pologne à l'Ukraine, de Marseille à Amsterdam. Le 3 juin, il frappe à la porte de Miljeet et de son mari, ses bienfaiteurs. Otto leur apprend qu'Edith, sa femme, leur amie, ne reviendra pas. Mais il a, dit-il, bon espoir pour Margot et Anne. Ils s'accrochent à leur jeunesse et tous les jours, munis de leurs photos, ils se rendent à la Croix-Rouge, arpentent les hôpitaux, parcourent les gares où commencent à arriver les rares survivantes de Bergen-Belsen. Le 10 juillet 1945, il s'arrête de chercher. Il vient de recevoir une lettre lui annonçant la mort de ses deux filles. Mip, qui se trouve alors à ses côtés, disparaît aussitôt. Elle réapparaît quelques minutes plus tard, avec dans les mains un petit cahier orange à carreaux, des vieux livres de contes et des feuilles volantes. « Voici l'héritage de votre fille », lui dit-elle. Il faudra du temps à Otto Frank avant qu'il ne s'autorise à lire les écrits d'Anne. Combien de fois lui avait-il juré qu'il n'ouvrirait jamais son journal sans son autorisation ? Alors, serait-ce aujourd'hui la trahir ? Quand il finit enfin par s'y résoudre, il n'arrive à lire que quelques pages par jour, tant chaque phrase le bouleverse. Quand on lui demandera, des années plus tard, quelle a été sa première réaction, il dira simplement « Je ne savais pas que ma petite Anne était aussi profonde ». Et c'est au fond ce qu'il dit encore en 1969 sur le plateau des dossiers de l'écran.
« J'ai vu que je ne la connaissais pas. On était en bonne relation. Mais je demande beaucoup de parents ici même, est-ce que vous connaissez vos enfants ? Et ça, c'est une question très importante, parce que je crois que le développement d'Anne, dans l'âge de 13 à 15 ans, c'est un âge si difficile que beaucoup de parents et beaucoup de jeunes gens ont des difficultés.
Le journal intime d'Anne Frank commence le 12 juin 1942, le jour de son 13e anniversaire. Bien qu'elle soit née en Allemagne et arrivée aux Pays-Bas à l'âge de 4 ans, elle écrit en néerlandais et commence ainsi. « Je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de choses, comme je n'ai encore pu le faire à personne. » Elle s'adresse alors à une amie imaginaire, Kitty, à qui elle raconte sa vie quotidienne, l'école, la maison et la grande histoire qui la rattrape. Quelques jours plus tard, elle écrit « À partir de mai 1940, c'en était fini du bon temps. D'abord, la guerre, la capitulation, l'entrée des Allemands et nos misères, à nous, les Juifs, ont commencé. » La Hollande occupée collabore en effet activement à la mise en place des mesures anti-juives. Recensement obligatoire, exclusion de la fonction publique, porte de l'étoile jaune, confiscation des biens et des sociétés, rafle de masse. En 1941, Otto Frank, le père d'Anne, cède officiellement la direction de son entreprise, Opecta, à son ami Victor Kugler, et tente d'émigrer aux États-Unis. En vain. Il va alors imaginer une survie possible. Se cacher, en famille et en plein cœur de la ville qui les traque. Pendant des mois, il aménage discrètement l'annexe, un espace à 3 niveaux qui se trouve à l'arrière de son entreprise, au 263 Prinzenstraat. Il révèle son plan secret à sa secrétaire et grande amie, Mip. Il lui demande son aide, mais insiste pour qu'elle réfléchisse avant de lui répondre. Mais nul besoin, pour son mari non plus, l'aider, bien sûr, une évidence. Le 5 juillet 1942, Margot Frank, la sœur aînée, âgée de 16 ans, reçoit une convocation pour le travail obligatoire en Allemagne. Alors il n'y a plus de temps à perdre. Demain, dès l'aube, ils entreront dans la clandestinité.
Tous les quatre, nous nous sommes couverts d'habits, comme pour passer la nuit dans une glacière, et cela dans le seul but d'emporter d'autres vêtements. Aucun juif dans notre situation ne se serait risqué à quitter la maison avec une valise pleine d'habits.
Une semaine à peine après leur installation dans l'annexe exiguë, les Francs y accueillent leur ami Hermann von Pels, sa femme Auguste et leur fils Peter, 15 ans. 4 mois plus tard, une 8e personne les rejoint, Fritz Pfeffer, un dentiste juif allemand. Le journal intime d'Anne Frank devient alors celui d'une adolescente confinée, sous contrainte permanente. De 8h à midi et demi, il faut tenir le silence absolu pour ne pas se faire entendre des employés de l'usine. Les clandestins ont ensuite une heure pour déjeuner, aller aux toilettes, écouter les actualités, discuter. À 13h30, ils retournent à l'immobilité. Alors, les angoisses s'accumulent. La peur, la faim, la crainte de la dénonciation et de ce qui leur arriverait si on les découvrait. Anne Frank dit tout cela dans son journal. Elle lit aussi des choses de son âge, les livres qu'elle lit et les stars qu'elle vénère, les disputes avec sa mère, la découverte de son corps et de sa sexualité, son amour fou pour Peter. Elle s'interroge également sur ses envies et son avenir. Plus tard, écrit-elle, elle voudrait être journaliste ou écrivaine.
Et si je n'ai pas le talent d'écrire dans les journaux ou d'écrire des livres, alors je pourrais toujours écrire pour moi-même. Mais je veux aller plus loin. Je ne peux pas m'imaginer une vie comme celle de maman, de Madame Van Dan et de toutes ces femmes qui font leur travail et puis qu'on oublie.
La dernière entrée du journal est datée du 1er août 1944, 3 jours avant la rafle. 1 an plus tard, son père finit de lire les manuscrits de sa fille et, petit à petit, il commence à en parler autour de lui, lit des passages jamais, puis à d'anciens déportés. Et s'il pouvait réellement réaliser le rêve de sa fille, écrire et publier. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui le journal d'Anne Frank.
France Inter, Affaires Sensibles.
L'opinion de mes amis était que je n'avais aucun droit de considérer le journal comme un héritage privé, car c'était un document d'une grande richesse sur l'humanité. Au départ, j'étais très réticent, puis peu à peu, j'ai compris qu'ils avaient raison. Anne aurait été si fière.
Otto Frank a longtemps hésité à publier les écrits de sa fille, comme il en témoigne dans le livre de Carole Hanley, Anne Frank, Les secrets d'une vie. En décembre 1945, sa décision est prise. Mais pour l'heure, il est impossible de soumettre le texte tel quel à un éditeur. Il ne s'agit pas en effet d'un journal intime, continu, structuré, mais d'une somme d'écrits épars, répartis sur 3 cahiers et plus de 200 feuilles volantes. De plus, certaines pages se ressemblent à s'y méprendre. Et pour cause, il n'y a pas un, mais en réalité, 2 journaux d'Anne Frank. Le premier, son journal intime, commencé en juillet 1942, on l'appelle la version A. Le deuxième commence le 29 mars de 1944. Ce jour-là, alors qu'elle vit cachée dans l'annexe depuis plus d'un an et demi, Anne entend à la radio une annonce du ministre de l'Éducation néerlandais en exil. Il appelle tous les Hollandais à conserver leurs écrits, leurs lettres, comme autant de témoignages pour l'avenir. La jeune fille voit alors l'occasion de transformer son journal en une œuvre littéraire digne d'être publiée, comme le raconte l'écrivaine Lola Lafont sur France Culture en 2022. La même année, elle publie aux éditions Stock « Quand tu écouteras cette chanson », récit d'une nuit passée dans l'annexe secrète devenue musée.
Elle a commencé à le réécrire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle quitte d'une certaine façon sa peau de diariste adolescente, elle devient écrivaine. Parce que, évidemment, quand on réécrit, pour moi, on passe vraiment à l'écriture. Donc, elle fait des choix, elle enlève des passages, elle réorganise vraiment son récit.
Tout en continuant à écrire régulièrement son journal original, Anne Frank retravaille à toute vitesse ses premiers écrits en pensant à ses futurs lecteurs. Cette version corrigée, qu'on appelle la version B, est malheureusement incomplète. Elle n'aura pas le temps de la terminer avant la rafle du 4 août 1944. C'est donc son père, Otto Frank, qui va s'y atteler. Il y consacre tout son temps, compare les variantes en se demandant sans cesse ce qu'elle aurait choisi, elle. Il rassemble en priorité la réécriture, mais certaines feuilles se sont perdues durant l'arrestation. Donc, des périodes manquent. Alors il pioche dans les premiers écrits plus intimes à la manière d'un puzzle afin d'aboutir à un texte linéaire et publiable appelé « version C ». Certains parleront d'une version expurgée par son père, c'est faux. La censure viendra d'ailleurs. En 1947, une petite maison d'édition néerlandaise s'engage à publier le journal à condition que les passages dans lesquels la jeune fille évoque sa sexualité et ses règles soient coupés. Le livre paraît sous le titre qu'Anne lui avait donné. L'annexe, 2 points, note du journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944. 3 ans plus tard, en 1950, le journal d'Anne Frank, comme il s'appelle désormais, est traduit en français puis en allemand. Les éditeurs allemands, eux, choisissent de réintégrer les 10 passages sur l'intimité de Anne, mais exigent la suppression des paragraphes négatifs sur l'antisémitisme nazi. Comme l'explique la professeure de littérature comparée Catherine Cocchio dans « L'enfant et le génocide », livre publié chez Robert Laffont en 2007.
Anne Frank était devenue la victime par excellence des nazis. Mais cette reconnaissance des souffrances endurées par une enfant ne compromettait pas l'ordre des choses. Elle ne troublait ni ceux qui avaient collaboré en Hollande ou ailleurs, ni les Allemands eux-mêmes. L'histoire avait été débarrassée des éléments susceptibles de singulariser la mémoire d'une enfant et d'une enfant juive d'origine allemande.
En 1952, c'est au tour des États-Unis de publier le journal d'Anne Frank qui devient rapidement un best-seller. 3 ans plus tard, il est adapté en pièce de théâtre. Mais les producteurs de Broadway jugent l'histoire trop triste et trop juive. Il décide alors de remplacer toutes les mentions sur les Allemands par « nazi » et d'atténuer la judaïté d'Anne Frank. Plus aucune trace, par exemple, de Yom Kippour ou de Hanouka. Le journal d'Anne Frank est ainsi transformé en plaidoyer universel pour la paix. Un critique du New York Times écrit même que c'est bien parce qu'on sort du spectacle sans haine vis-à-vis du nazisme qu'on y parvient. Et c'est un triomphe. La pièce est adaptée au cinéma et un peu partout dans le monde. Elle débarque en France en 1957. Les critiques du Masque et la Plume sont emballées, certes, mais ne cachent pas un certain malaise.
Je regretterais quand même une chose à propos du tact, quand même, c'est la phrase sur laquelle se termine la pièce.
C'était une grosse discussion, vous savez.
Oui, mais je crois quand même, enfin, la pièce, cette pièce qui, malgré tout, montre des hommes persécutés, enfin, qui d'ailleurs ne nous dit pas par qui ils sont persécutés. Il y a quand même une chose assez curieuse dans cette pièce, c'est que se passant à un certain moment, il n'est jamais question, absolument jamais, ni des Allemands, ni des Russes. Très peu des Allemands, très peu, ni des Russes, ni des Américains. Enfin, je suppose que pendant la guerre, des gens enfermés comme ça, quand même parlaient plus de ce qui se passait au dehors. Enfin, peu importe. Et alors, moi, je parlais de cette phrase qui termine la pièce où l'on dit « Je crois, mais il faut croire en la bonté des hommes », alors que la pièce tendrait plutôt à démontrer le contraire. Et je crois que quand même, c'est donner un peu trop facilement aux spectateurs bonne conscience. Moi, je veux bien qu'on soit du côté des innocents, mais il ne faut quand même pas qu'on oublie tout à fait qu'on n'a pas toujours été du côté des innocents.
Je crois, je continue à croire, malgré tout, que dans le fond de leur cœur, les hommes sont réellement bons.
De son propre aveu, Otto Frank n'a jamais vu la pièce ni le film, mais consacrera le restant de sa vie à l'œuvre de sa fille. Il habite à Bâle à ce moment-là, en Suisse, loin d'Amsterdam et de l'annexe, qui devient un musée en 1960. Il exige alors que leur cachette reste en l'état où lui-même l'avait trouvée à son retour des camps de la mort. C'est-à-dire entièrement vide, pillée jusqu'au dernier meuble. Dans la chambre d'Anne Frank, il restait seulement, et reste aujourd'hui encore, les cartes postales et les photos de stars de cinéma qu'elle collait au mur. En parallèle, Otto Frank passe un temps fou à répondre personnellement aux milliers de courriers de lecteurs qu'il reçoit du monde entier, mais aussi aux accusations les plus ignobles. À partir de la fin des années 50, des négationnistes s'emparent du symbole et contestent l'authenticité du journal. En 59, par exemple, lors d'une représentation de la pièce en Autriche, de jeunes néo-nazis incurables interrompent le spectacle et distribuent un tract aux spectateurs. « Ceci est une supercherie. Anne Frank n'a jamais existé. Les Juifs ont tout inventé afin de gagner plus d'argent. » Présent ce soir-là, Simon Wiesenthal, rescapé des camps et chasseur de nazis, se lance alors pour mission de retrouver celui qui a arrêté les Frank le 4 août 1944. C'est donc grâce à lui que nous savons qu'il s'agit du sous-officier SS Silberbauer. Retrouvé en 1963, l'ancien bourreau se souvient très bien de l'annexe et du visage d'Anne Frank qu'il reconnaît sur les photos. Mais les négationnistes ne désarment pas. Otto Frank s'est battu jusqu'à sa mort contre chacune de leurs attaques. Il multiplie les procès et accepte à 3 reprises de faire expertiser les cahiers. Et de fait, tout est passé au crible. Le papier, la colle, l'encre, les cartes postales collées au mur. Un document de plus de 250 pages confirme l'authenticité du journal. Mais les négationnistes continuent de nier. Alors que les écrits d'Anne Frank sont une preuve supplémentaire de la souffrance des Juifs et de leur sort lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce que Anne Frank écrivait le 9 octobre 1942, bien avant la libération des camps.
Cher Kitty, aujourd'hui, je n'ai que des nouvelles sinistres et déprimantes à te donner. Nos nombreux amis et connaissances juifs sont emmenés par groupes entiers, on les transporte à Westerbork dans des wagons à bestiaux. S'il se passe déjà des choses aussi affreuses en Hollande, qu'est-ce qui les attend dans les régions lointaines et barbares où on les envoie? La radio anglaise parle d'asphyxie par le gaz. C'est peut-être la méthode d'élimination la plus rapide.
Otto Frank meurt en 1980 à l'âge de 91 ans. Quelques mois avant, la Cour suprême d'Allemagne de l'Ouest rend pénalement répréhensible la négation de la Shoah. Peut-être fût-ce pour le père d'Anne Frank une consolation. Il n'y a guère plus personne aujourd'hui pour contester l'authenticité du journal d'Anne Frank, dont l'édition critique intégrale, incluant tous les manuscrits et toutes les versions connues, paraît en 1986. Pourtant, cette œuvre, par sa liberté et la destinée qu'elle raconte, ne cesse d'en déranger certains. En septembre 2023, par exemple, c'est donc tout récent, au Texas, une enseignante a été renvoyée pour avoir fait étudier à ses élèves de quatrième un roman graphique adapté du journal d'Anne Frank. Cette version contiendrait des éléments pornographiques, à savoir une description du clitoris écrite par Anne Frank. Deux mois plus tard, c'est en Allemagne que la polémique s'enflamme. Une crèche baptisée Anne Frank souhaite renommer l'établissement, jugeant que son nom actuel n'est pas assez, je cite, « adapté aux enfants ». C'est qu'en devenant un symbole, Anne Frank a cessé d'être une petite fille. Elle est une sorte de légende issue de la réalité, bien sûr, façonnée au gré des obsessions de l'époque. Anne Frank, vénérée et piétinée, comme le conclut l'écrivaine Lola Lafont. Affaires sensibles aujourd'hui, le journal d'Anne Frank. Notre invitée Christine Leroux, bonjour.
Bonjour.
C'est la correspondante en France de la maison Anne Frank à Amsterdam. Nous avons raconté l'histoire d'Anne Frank, moins dans le récit, celui du musée. Donc je vais vous laisser le plaisir de nous raconter le musée, quand il a été construit en tant que musée, et aujourd'hui quelle est sa fréquentation.
Le musée trouve sa source dans la fondation Anne Frank, qui a donc été créée par Otto Frank, parce que la mairie d'Amsterdam, dans les années 50 à 60, avait décidé de rénover un petit peu tout le quartier, qui était le quartier juif, qui était un quartier assez pauvre. Peut-être l'équivalent du Marais à Paris, pour voir un petit peu. Donc c'était un quartier qui était très abîmé. Et l'idée était un peu de tourner la page et d'aller de l'avant. Donc la mairie d'Amsterdam avait décidé d'un grand plan d'aménagement qui prévoyait donc que l'annexe soit rasée et qu'on y fasse un parking. Et là, Otto Frank s'est mobilisé, tout simplement parce que l'adresse du journal 263 Prinsengracht est écrite dans le journal d'Anne Frank et qu'il y avait des gens qui commençaient à venir visiter spontanément alors que l'entreprise continue à tourner dans des locaux vétustes. Et il se dit, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça parce que il ne restera rien à part le journal. Et donc il se bat pour qu'il crée une fondation de droit néerlandais, une association en quelque sorte, et il parcourt l'Europe et il commence à parcourir le monde là où le journal est un peu connu pour essayer de réunir des fonds pour pouvoir officiellement racheter les locaux, en réalité faire beaucoup de bruit autour de cette affaire.
Voilà, et donc ce qu'on visite, ce sont les vrais locaux, là où Anne Frank, évidemment, était recluse.
A été cachée, tout à fait, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il va réussir à sauver le lieu, et le 3 mai 1960, il ouvre le musée, il ouvre la maison Anne Frank comme un musée.
Combien de visiteurs par an ?
Plus d'un million, 1 200 000 l'an dernier.
Qu'est-ce qu'on peut y voir aujourd'hui alors ?
On y voit les traces sur les murs que vous aviez évoquées, les signes de croissance des filles. On y voit les photos que Anne avait découpées dans des magazines, les photos de ses stars préférées, les photos de famille royale. Et on y trouve tout à la fin le journal qui est exposé en tant que tel.
Le fameux petit cahier orange ?
Tout à fait.
On le voit ?
Oui, on le voit sous une vitrine et les pages sont changées régulièrement, ce qui fait qu'en fonction de la date de la visite, on tombera sur une page ou sur une autre.
Alors justement, à propos de ces pages qui sont des feuilles volantes, on a dit qu'il y avait un volet feuilles volantes, elles ont probablement été perdues, une partie d'entre elles en tout cas. A-t-on aujourd'hui un espoir de les retrouver ?
Bon, je ne vois pas très bien comment. Je pense que c'est tout à fait impossible, oui. Ouais. Ce qui a été récupéré par Mipris et par Beb Vox à l'époque a été préservé, mais pour le reste, je pense que c'est parti avec, au moment de la spoliation, au moment de, ouais, où les locaux ont été vidés.
Bon, ce qui compense, peut-être, ce sont les pages inédites du journal qui ont été dévoilées. Pouvez-vous nous en parler ?
Les pages inédites, c'est-à-dire, vous voulez dire celles que Otto Frank n'avait pas souhaitées. Oui, oui. En fait, c'était des parties du journal intime. Et ne sais pas qui voudrait qu'une partie de son journal intime soit développée, soit montrée au public, au grand public. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait quelques pages qu'elle avait collées, effectivement. Parce que, mais ça aussi, c'est dans son journal intime. Parce que c'était une jeune fille espiègle. Et comme toute, Comme toutes les adolescentes, eh bien, elle avait écrit son journal, et puis elle avait raturé, puis elle avait caché des choses qu'elle regrettait, etc. Mais ça, c'est sont ses petits secrets.
Son jardin secret, bien sûr.
Tout à fait, bon. Qu'on doit respecter, je pense.
Alors, quand on parle du journal d'Anne Frank, effectivement, on pense à une jeune fille, et on n'imagine pas que cette jeune fille a la bosse de l'écriture, qu'elle a envie d'écrire bien, qu'elle voudrait faire être journaliste ou autrice. Et on sent déjà une écriture qui ne s'adresse pas qu'à elle-même ou à ses proches, alors, je dirais pas l'humanité, mais si, finalement, aux gens, quoi, à tout le monde. On sent ça dans son écriture.
Oui, elle travaille son écrit, en fait. Quand elle va reprendre le journal pour faire la version qu'elle voudrait voir un jour, voir publiée, c'est une adolescente de 15 ans. C'est plus une petite fille de 13 ans. Donc, elle trouve ça très bébé et elle va reprendre avec un certain style. Et on sait que Anne travaillait son néerlandais. Elle travaillait l'aspect littéraire puisqu'elle lisait énormément dans la cachette. Il ne pouvait pas beaucoup bouger, donc elle lisait, elle écrivait. Et au fur et à mesure de ses lectures, elle notait dans des cahiers ce qu'elle appelait un cahier de belles phrases, avec des textes qui lui convenaient, avec des termes qui lui semblaient suffisamment précis, suffisamment beaux pour pouvoir les réutiliser. Et donc, elle travaille vraiment son style qui mature avec elle, on va dire, au fil de la réécriture du journal.
Alors, lire, écrire sont les seuls bonheurs à portée de main de ces gens qui sont cachés pendant ces longs mois, puisqu'ils ne peuvent pas parler, pour ne pas être repérés. J'imagine qu'ils ne peuvent pas beaucoup marcher non plus, pour ne pas faire du bruit. Donc, on comprend que Anne Frank tue le temps aussi, en même temps, en écrivant, en lisant. Est-ce qu'on sait ce que faisaient les autres ? Comment s'est passée ces journées ? C'est quand même, c'est terrible.
On sait que Margot et Peter, et donc Anne aussi, travaillaient parce qu'Otto Frank ne voulait pas qu'ils perdent pied par rapport à la scolarité. Mm-hmm. La famille était persuadée qu'ils ne seraient pas trouvés. Donc ils attendaient la libération, c'était une question de temps. Ouais. Même si Edith était beaucoup plus pessimiste, mais en tout cas on sait que Otto, Anne et Margot attendaient cette libération.
D'autant que c'était le vent de l'histoire, puisqu'on était finalement peu de temps avant la fin du cauchemar.
Exactement, c'est-à-dire que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des gens qui sont libérés le 6 juin, et puis il y a des gens qui doivent attendre de nombreux mois.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Christine Laureau, aujourd'hui le visage d'Anne Frank est reproduit sur des timbres, des tasses, des posters, son portrait est tagué sur des murs, gravé sur des médailles. Pensez-vous que cette ferveur, cette Anne Frank mania, fait de l'ombre à son œuvre, voire à son histoire? Je vous dis ça parce que Hannah Arendt, qui est une grande conscience, hein, qualifiait l'adoration dont elle est l'objet de sentimentalisme bon marché aux dépens d'une immense catastrophe.
L'aspect affectif qui touche les adolescents et les jeunes quand ils lisent le journal d'Anne Frank, c'est quelque chose qui incarne une victime du nazisme qui était destinée à être anonyme, dont la vie était destinée à rester inconnue. Donc, je n'ai pas d'avis particulier sur ce que vous appelez Anne Frank mania, je ne sais pas exactement. Mais tout ce que je sais, c'est que les adolescents, tous les adolescents, la considèrent comme l'une d'entre eux. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer quand adulte, on lit le journal. C'est un petit peu une vision différente des choses.
Bien sûr. On va écouter une archive. On est en avril 1969 sur le plateau des dossiers de l'écran. Un débat est organisé après la diffusion du film américain Le journal d'Anne Frank, le film de George Stevens. Et il y a notamment Otto Frank, dont on a entendu quelques extraits durant le récit et dont on redira un mot. Il y a des jeunes adolescents qui n'ont pas connu la guerre. Et il y a Elie Wiesel, écrivain et survivant de la Shoah, qui s'adresse directement à eux.
Ce qui m'obsède, moi, c'est de savoir ce que l'Holocauste, car c'est le terme qui définit cette guerre, cette expérience, ce que ça signifie pour vous. Vous qui aviez l'âge de Peter ou d'Anne Frank, et vous qui aviez mon âge, vous voyez un film, on vous parle de la guerre, on vous parle des victimes, on en parle mal. Il y a une phrase dans Anne Frank qui m'a particulièrement touché, où elle dit « Saurais-je écrire un jour ?» C'est horrible cela. Pour moi qui suis écrivain, je me demande très souvent, suis-je capable d'écrire? Peut-on écrire tout cela? Peut-on transmettre tout cela? C'était ça l'obsession de tous les juifs pendant la guerre. Moi je me disais souvent, Peut-être serais-je le dernier survivant, le tout dernier. Et à moi, il incombera de raconter, de transmettre cette vision, ce cauchemar, et de le transmettre à vous. Est-ce que cette transmission sera-t-elle perdue, comprise, métamorphosée en quoi ?
Alors, l'archive est très intéressante, hein, car elle dit déjà, en 1969, toute la difficulté de transmettre cette histoire, cette transmission, justement, ce travail éducatif, est-il au cœur de votre mission ?
Tout à fait. C'est exactement la mission que nous a donnée Otto Frank, en dehors de la préservation des lieux et du musée. Nous travaillons avec des jeunes adolescents, de l'âge d'Anne Frank quand elle écrivait, et nous travaillons donc en collège et lycée. Et ces jeunes sont amenés à partager l'histoire avec leur père. Donc on a tout un projet d'éducation par les pères, dans un schéma éducatif qui est assez proche de ce que Otto Frank avait souhaité, puisqu'il avait mis ses filles à l'école Montessori, donc c'était quelqu'un qui avait des idées bien précises sur la façon de transmettre et d'enseigner. Et on transmet donc, on forme ces jeunes pour qu'ils soient eux-mêmes porteurs de cette histoire. Ce sont des jeunes qui sont volontaires, ce sont des jeunes qui s'engagent, qui travaillent en dehors des heures scolaires, et un peu partout. Là, l'exposition était il y a quelque temps à Clichy-sous-Bois, par exemple. Et c'est extrêmement émouvant de voir ces jeunes qui portent cette histoire et qui sont complètement en dehors de tout ce que les adultes peuvent imaginer, penser ou présupposer, dès lors qu'on leur permet de... dès lors qu'on partage ça avec eux. Il y a une transmission directe qui se fait, il y a quelque chose qui se fait au regard de la lecture du journal. Et c'est toujours très impressionnant de voir les consciences s'éveiller.
Est-ce que vous avez remarqué, pointé, au fil des années, hein, auprès des jeunes, un changement de mentalité, une évolution ? Est-ce qu'au fil des années, cette histoire devient de moins en moins difficile à aborder et à raconter ? Ou est-ce qu'il y a encore des blocages ?
Je pense qu'il y a beaucoup de blocages de la part des adultes. Ça, c'est une chose, mais il faut bien que les adultes nous laissent accéder à leur cours pour qu'on puisse intervenir avec les jeunes. Oui, quand j'ai commencé à travailler, j'étais moi-même enseignante il y a 25 ans. Je travaillais en zone d'éducation prioritaire et le journal d'Anne Frank, c'était une manière de parler du racisme à des jeunes pour ne pas parler de ce qu'ils vivaient eux-mêmes. Mais bon, pour faire un détour. Aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait différente. Le projet d'éducation par les pères est né juste après la tuerie de Toulouse, les tueries de Toulouse, à la demande d'enseignants qui eux-mêmes recherchaient dans leur propre adolescence ce qui les avait préservés de sombrer dans l'antisémitisme, etc. Qu'est-ce qui leur servait de repère ? Et donc, c'est eux qui nous ont interpellés en disant « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à ce que... nous ne laissions pas passer de tels jeunes parmi nos élèves.
Et par rapport au négationnisme ?
C'est encore une fois presque une question d'adulte. Il y a des préjugés, il y a des idées toutes faites. Si on va chercher sur Internet, on va voir 100 fois que le journal d'Anne Frank a été écrit au style hobby, que c'est impossible, etc. Ce genre de sornette...
Ça n'a pas pris sur les jeunes, c'est ça que je veux savoir.
Ça en a, ils posent la question.
Ils posent la question, bon, ça va.
Et à partir du moment où on fait un travail en profondeur avec eux, on a des échanges sans tabou avec eux, donc ils peuvent nous poser toutes les questions, et c'est un vrai moment de réflexion et d'échange ensemble, donc je pense que ça ne pose pas de problème. Et je pense que ces questions qui se posent et qu'ils balayent, en fin de compte, c'est peut-être la meilleure protection pour l'avenir.
Il me reste à vous remercier. Merci. Et à vous saluer.
Merci à vous. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Anne Frank, l'histoire d'un journal. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Corentin Rouchy.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.